marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La libération de la Corse.
Les Corses en avant, la libération de la Corse en 1943.
Le 6 octobre 1943, dans tout l'Empire français, les drapeaux ont flotté sur les villes pavoisées pour fêter la libération du premier département français d'où les nazis d'Hitler ont été chassés par les soldats français de l'armée française. L'histoire dira un jour les misères, les deuils, mais aussi la volonté de la population corse. Dès maintenant, on peut citer déjà des actes inouïs, des anecdotes admirables, des exploits incroyables.
En 39-40 comme en 14-18, c'est sur le continent que les Corses avaient payé l'impôt du sang. Mais la focale de la Corse n'est pas la même que celle du continent. Du point de vue de l'île, l'empire colonial occupe une place prioritaire. En revanche, l'Allemagne est loin, c'est l'Italie qui est proche. En 1915, les Corses s'étaient félicités de l'entrée de l'Italie dans le conflit aux côtés des Alliés. En 39-40, ce fut l'inverse. Le ralliement de Mussolini à Hitler a été considéré comme un coup de poignard dans le dos et sa volonté de plus en plus affirmée de récupérer l'île au nom de l'irrédentisme a été jugée insupportable par la majorité des Corses. En novembre 42, en réaction au débarquement des Alliés à Alger, les Allemands passent la ligne de démarcation, ça c'est sur le continent, mais en Méditerranée, ce sont les Italiens qui occupent la Corse. Le ravitaillement s'en trouve interrompu, le mécontentement explose, les Corses prennent le maquis. Non que se créent les maquis, stricto sensu, mais l'imaginaire de l'île est comme réveillé. La Corse ne se vend ni ne se donne. L'organisation de la résistance est largement prise en main par des communistes à la personnalité singulière qui arbore les trois couleurs, mais convoque le souvenir de Sampiero Corso, l'anti-génois, et celui de Pascal Paoli. En septembre 43, les communistes donnent le signal de l'insurrection, aussitôt après la chute de Mussolini à Rome. Que vont faire les troupes italiennes coincées sur l'île et les Allemands qui veulent l'utiliser pour faire passer leurs blindés de Sardaigne à Bastia? Comment les Alliés vont-ils organiser leur bombardement? Et les soldats de la France libre qui débarquent vont-ils suffire à relayer les résistants? La libération s'est jouée entre beaucoup d'acteurs, mais la mémoire corsiste insiste sur l'action des Corses et pour le général de Gaulle, venu sur l'île dès les premiers jours d'octobre 43, c'est simple, la Corse c'est le premier morceau de France libéré par des Français.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Sylvain Grégory, bonjour.
Bonjour.
Nouveau directeur du musée de Bastia, il y a d'excellents musées en Corse et Bastia est l'un d'entre eux. Vous avez fait votre thèse d'histoire sur les résistances en Corse de 40 à 43, publié beaucoup de travaux sur le sujet. Et puis, le vaillant éditeur Alain Piazzolla va sortir bientôt le tome 2 de l'histoire de la Corse, où on trouvera beaucoup de textes de vous. Je ne vais pas vous vexer, mais si je vous dis que... On va commencer à la hauteur de 42. Pendant les 28 mois du régime de Pétain en Corse, bon, bah, la Corse était, excusez-moi, au diapason de l'opinion nationale.
Alors, au diapason, oui, puisque le maréchalisme va connaître de beaux jours comme ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, le régime de Vichy, à cette époque-là, dans l'imaginaire des Corses, menacé par une annexion potentielle de l'Italie fasciste, le régime de Vichy, pour eux, c'est la France. Donc, pour se rattacher et pour rester au sein de l'unité nationale, il faut faire preuve d'une certaine démonstration favorable au régime de Vichy. Mais tout cela va très vite s'étioler et fin 1941, le régime connaît déjà une certaine dégringolade dans l'opinion.
Alors, il y a deux grands partis traditionnels, bipartisme clanique, avec des réseaux familiaux de clientèle. L'un des deux est tenu par un proche du maréchal, François Pietri, mais qui ne vit pas en Corse à cette époque-là. Il est bientôt ambassadeur à Madrid. Les Corses, ça c'est peut-être une différence, sont plus anglophiles peut-être que la France continentale à cette époque.
Beaucoup plus et de manière plus précoce, puisqu'en effet, cette menace italienne que l'on a évoquée, elle va avoir pour conséquence au sein de l'opinion de favoriser très tôt l'anglophilie comprise comme la nation qui lutte encore contre l'ennemi italien.
Et puis les Anglais alliés de Paoli, mais on ne parle pas tant que ça de Paoli nécessairement à l'époque en 41-42. Novembre 42, les alliés anglo-américains débarquent en Algérie et beaucoup de Corses se disent peut-être qu'ils vont prolonger l'action en poussant jusqu'à la Corse et les Bastiais se massent en nombre. Place Saint-Nicolas, place Maréchal Pétain peut-être à l'époque, non ?
À cette époque-là, oui, bien sûr.
Ils se placent en nombre donc sur ce site extraordinaire d'où on voit venir les bateaux. Ils espèrent l'arrivée donc des Anglais.
On espère que les alliés gagneront les ennemis de vitesse et que Américains, Anglais et Français viendront occuper la Corse avant les ennemis.
Et vers les 2h de l'après-midi, les bateaux italiens apparaissent à l'horizon, là-bas.
Ils arrivent en nombre. On en a évalué une 30 000 dans les premiers temps. Ils arrivent avec un matériel considérable.
Et au matin, nous voyons cette flotte italienne dans le port de Bastia, avec un serrement de cœur que vous imaginez.
C'est là que j'ai vu des curieux uniformes, les plumes des bersalières. Ils étaient curieux. C'était pas une vraie armée comme on voit d'habitude.
Je les ai vus ici monter par cette avenue avec les tanks. Et j'ai dit à ma mère, maintenant, il est temps de foutre le camp de Bastia.
Nous allons utiliser au long de cette émission assez souvent un documentaire qu'on trouve sous une forme très déployée, presque un web documentaire sur le site Résistance FR3. Julie Perrard et Yann Vazak en sont parmi les auteurs. C'est pas une vraie armée. Eh ben oui, comment peut-il y avoir une vraie armée alors que les Italiens, on les connaît surtout comme des travailleurs immigrés. Ils n'ont même pas de propriété en Corse.
Oui, alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif insulaire, l'Italien a une mauvaise réputation, entre guillemets. C'est dans les représentations mentales, l'image de l'ouvrier journalier, un peu méprisé, toléré parce qu'on en a économiquement besoin, mais qui est en marge de la société. Donc lorsque cette armée italienne débarque en Corse, le traumatisme est d'autant plus important qu'il inclut une inversion en quelque sorte des valeurs sociales.
Alors je ne sais pas s'il faut parler d'italophobie, je sais que vous utilisez parfois le mot. Elle est aussi fondée sur la revendication qui a monté au long des années 30 de l'Italie fasciste, qui veut et la Tunisie et la Corse. Et il y a des députés fascistes qui réclament ça très fort au Parlement italien en 38. Le président du Conseil d'Aladier va venir faire une visite pour rassurer les Corses en janvier 1939.
Oui, tout à fait. Et de fait, cette réaction italophobe, elle va entraîner...
Ça y est, vous l'avez dit.
Oui, je l'ai dit, voilà. Vous l'avez fait dire. Elle va entraîner donc une absence totale de crise d'identité nationale telle qu'on va la voir se développer au même moment dans le reste de l'Hexagone. Donc on a vraiment un ciment patriotique et un consensus italophobe qui est vraiment très prenant dans la population et qui va expliquer les comportements individuels et collectifs.
Pourtant, il y avait eu un mouvement régionaliste à partir des années 20, à Mouvra, le Mouflon, une revue bien connue. Certains de ses membres avaient été tentés par l'irrédentisme.
Oui, alors c'est une minorité. Ça s'inscrit aussi dans cette perméabilité d'hommes nouveaux, entre guillemets, qui sont beaucoup plus réceptifs aux idéologies nouvelles que sont le fascisme, par rapport à des classes d'âge ou des élites politiques qui sont beaucoup plus enfermées sur des modes de comportement politique plus anciens.
Vous êtes en train de dire qu'il y avait plus d'esthétique chez les régionalistes. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde à Mouvra cette revue.
Il y a vraiment un mouvement moderne qui fait finalement qu'en réaction à la France, on se tourne vers la nation qui est son ennemi à cette époque-là en Méditerranée, c'est-à-dire l'Italie.
Bon, mais enfin, les irrédentistes donc, sont extrêmement minoritaires quand arrivent pour l'occupation les Italiens. Et puis alors, l'occupation italienne, ça rompt tous les circuits de distribution, de ravitaillement, de commerce. Et c'est vrai que c'est la ruine économique illico.
Effectivement, vu que la Corse était quasiment totalement dépendante de son approvisionnement venant de l'extérieur et plus particulièrement d'Afrique du Nord, la rupture qui intervient avec le Maghreb à cette époque-là et l'isolement de l'île qui est progressivement mis en place par l'occupant italien de façon volontaire concourt à une dégradation très rapide de la situation économique, d'autant qu'il y a 80 000 soldats italiens, soit quasiment un occupant pour 4 habitants, qui vont avoir aussi un poids au quotidien.
Il faut les nourrir.
Il faut évidemment les nourrir et l'armée italienne est complètement déficiente à ce niveau-là.
D'où des manifestations notamment à...
À Bastia, évidemment.
Évidemment, qui va être la capitale de la résistance corse. Alors ici, c'est une scène d'un autre film intéressant concernant la Corse, signé Philippe Carrez. Je le prononce mal. Liberata, un film de 2005. Nous sommes dans une auberge, il y a encore à boire, je ne sais pas s'il y a encore à manger. Les soldats italiens, ils sont 80 000, dites-vous. Il y en a donc quelques-uns qui se tiennent dans cette auberge et ils surveillent les conversations que les résistants tiennent en français.
Hey, je voulais mettre ma tournée pour mon anniversaire. Eh ben oui, mon anniversaire.
Parlate in corso, altrimenti non vi capiamo.
Ils vont nous envoyer un ingénieur spécialisé dans les communications radio.
La volete smettere di parlare francese?
Code cette fois, ça sera la langouste.
La langouste?
La langouste fera sa migration au désert des Agriates incessamment sous peu, on attend le signal.
Oh!
Allez, en salute!
C'est tout à sa poche. Salute.
Salute!
Mais la prochaine fois, ça sera votre tournée à vous, hein?
La langouste est servie.
La langouste est servie.
Ça y est. L'ingénieur radio envoyé par De Gaulle débarque aux Agriates.
L'ingénieur radio envoyé par De Gaulle débarque aux Agriates. Alors, qu'est-ce que fait, dans une résistance qui va être dominée par les communistes, qu'est-ce que fait le gouvernement du général De Gaulle, enfin le comité de la France libre, le comité de libération?
Alors, à cette époque-là, c'est les réseaux giraudistes qui dominent la résistance corse et qui vont être la porte d'entrée des relations entre les communistes et Alger.
Donc, le général de Gaulle est la deuxième et la première tête du comité de libération nationale à Alger, mais Giraud a la responsabilité presque monopolistique de la Corse.
D'un point de vue opérationnel, oui. Et c'est lui qui va implanter le premier réseau de renseignement qui sera très vite phagocyté par les communistes.
Alors, les communistes, pourquoi sont-ils si nombreux à la tête de la résistance, à tel point qu'on a pu comparer avec la Yougoslavie de Tito?
Faut quand même pas exagérer.
Ah, ben non, j'essaie de vous flatter.
Non, mais c'est vrai qu'avant la guerre, le Parti communiste n'a aucun élu en Corse. C'est une force nouvelle qui ne parvient pas à percer dans l'électorat, avec au mieux 400 militants.
Mais il y avait eu quand même le Front populaire.
Malgré le Front populaire.
Des mouvements sociaux.
Oui, mais qui reste encore dominé et encadré à cette époque-là par un des deux grands partis, qui est le Parti radical socialiste.
Oui, donc il y a le parti de Pietri, la droite, et puis l'autre grand parti, c'est Jacobi, Landry, c'est des radicaux. Et ces deux partis sont un peu inopérants face à l'occupation italienne et les communistes plus dynamiques. Ce sont des personnalités singulières, dites-vous, Sylvain Grégory.
Tout à fait, puisqu'on a d'un côté donc la droite piétriste qui se confond avec le régime de Vichy, les landristes qui se retirent quasiment tous de la vie politique et qui font une sorte d'opposant virtuel au nouveau régime. Et d'un autre côté, on a les communistes qui réussissent à capter le mécontentement social et aussi qui s'appuie sur tout un discours identitaire qui met en valeur l'histoire de la Corse et le panthéon des héros corses nationaux pour justement mobiliser contre l'occupant italien.
Alors c'est en ça que ce sont des communistes singuliers, ce sont des communistes qui font appel à Paoli, parce que le voilà maintenant qui revient, notamment par les communistes.
Voilà, il revient avec son Piero Gorsu, ce sont donc les grandes figures du combat anti-génois multiséculaire des Corses. Donc il est facile d'en faire des exemples mobilisateurs au sein de l'opinion, d'autant plus que celle-ci voit dans l'italien toujours ce lucchese, c'est-à-dire l'ouvrier misérable qui, avant la guerre, était à peine toléré.
Mais on va voir des communistes comme Maurice Choury, qui va être le représentant de la deuxième génération, une fois que certains chefs auront disparu, expliquer que les résistants sont dans la même peau que les bandits d'honneur traditionnels.
Oui, alors on a aussi beaucoup d'autres stéréotypes qui font partie de l'identité insulaire à cette époque-là, qui sont
plus du tout
réactivés.
Maintenant, là, on l'a noté.
Sur le banditisme, oui, beaucoup moins. Mais qui sont donc réactivés et qui servent d'effet mobilisateur sur l'opinion. Et force est de constater que ça a bien fonctionné, puisque l'insurrection du 9 septembre 1943, eh bien, elle se réalise grâce à cette mobilisation populaire.
Mais attendez, avant de parler de l'insurrection, qui va être consécutive à la chute de Mussolini, un mot encore sur les singularités des communistes. Il y avait beaucoup d'enseignants, mais il y avait des femmes aussi qui ont joué un rôle important.
Alors les femmes
étaient-elles communistes consciemment? Je ne sais pas, mais...
Alors, il faut distinguer les deux niveaux. Il faut distinguer les militantes, bien évidemment, du parti, qui sont intégrés mais à des rôles relativement mineurs et sans aucun poste de responsabilité au Front National.
Attendez, le Front National, c'est une appellation qui aurait dû rester l'apanage de la résistance. C'est une organisation qui fédère, avec souvent à la tête le Parti communiste, plusieurs mouvements.
Voilà, c'est un mouvement de résistance que l'on retrouve partout en France à cette époque-là. Mais la Corse est la seule région où le Front National a eu le leadership de la résistance. Et ce qui explique aussi cette emprise que va avoir le Parti communiste après la guerre et la décision d'insurrection qui est commanditée par le parti.
Non mais vous voulez nous en parler tout de suite de l'insurrection. Je voudrais que vous insistiez quand même sur les rivalités qu'il y a entre le Parti communiste et le Front national qu'il domine. Et puis d'autres circuits, notamment ceux qui sont pilotés par les représentants d'Alger. Fred Scaramoni, dans un premier temps, qui est ici cité dans une séquence du film Liberata, Philippe Carrez. Toujours, nous avons des militants communistes et puis un ami, un proche de Scaramoni.
Comment ça, pas ce soir? C'est notre premier parachutage, on va pas y être.
Non, c'est trop dangereux.
Oh.
Il va y avoir des Italiens partout dans la campagne cette nuit.
Ajaccio, les chemises noires sont de partout.
Rosa,
quand j'étais à Ajaccio, j'ai rencontré Scamarone.
Fred Scamarone, représentant des forces françaises libres. Il va se mettre à discuter avec des communistes maintenant.
Écoute, Paul-Antoine, nous autres, les communistes, on est plus nombreux.
Vous êtes plus nombreux, mais Londres, c'est avec nous qui discute et qui s'arrange.
Scamarone, il a passé un accord avec Benieli. On partage tout, Paul-Antoine. Les armes, les renseignements, tout.
Les armes? Tu voulais voir les armes que Londres nous envoie pour les résistants communistes? Les armes pour Staliniens.
Parce que toi, tu les trouves malins, hein, tes amis du FFL, hein? Pourquoi ils nous envoient des armes inutilisables? Parce qu'on est des communistes.
Cette nuit, les alliés, ils vont larguer n'importe où, ils vont.
On balise pas la zone du Mouflon, ils vont rien larguer du tout, et punta basta.
Benieli, dirigeant de la résistance communiste. Mais on parlait de staliniens encore, ces communistes-là, ils n'avaient pas d'attache avec l'histoire du Parti communiste. Ils étaient tout neufs. Ou alors, ils étaient des vieux corsistes.
Oui, non, c'était tout neuf, effectivement. La plupart des cadres sont des militants ayant une très bonne formation idéologique, mais ce sont des gens qui s'appuient sur un électorat et même...
On peut enfin, dire, un futur électorat.
Un futur électorat et un terroir qui est, bien sûr, aux antipodes de la définition capitaliste de la société. Donc, on est là dans d'un pays rural, essentiellement rural. Donc, on est plutôt dans un communisme de type, je dirais, latifundière, un peu sud de l'Italie.
Voilà. Ah, c'est mieux que la Yougoslavie comme terme de comparaison, je note. Sauf que la résistance, elle n'est pas nécessairement dans les villages, elle n'est pas dans le maquis au sens traditionnel du mot. Elle est dans des villes, et notamment dans une ville qui s'appelle...
Bastia.
Bien sûr, qui est la capitale. C'est une résidence urbaine, en fait. une résistance urbaine.
C'est, au niveau décisionnel, oui. Effectivement, toutes les décisions partent essentiellement de Bastia ou sont regroupées jusqu'au printemps 1943. Les principaux responsables et dirigeants de quasiment toutes les organisations de résistance. Donc effectivement, il y a une impulsion qui est éminemment urbaine, mais reste que c'est justement dans ce monde rural que vont avoir lieu notamment les parachutages, que vont avoir lieu aussi de nombreuses opérations de propagande, de distribution de tracts, et que vont avoir lieu surtout les relations entre occupants et occupés, qui vont faire que finalement, le soldat italien en septembre 1943 va être complètement démoralisé et comme un fruit mûr prêt à tomber dans les mains des résistants.
Ah, on y arrive à septembre 1943. Donc, au sud de la péninsule italienne, les Alliés avancent après le débarquement en Sicile et Mussolini tombe. Sous les coups de ses amis d'ailleurs, fascistes, qui le désavouent au Grand Conseil. Le roi d'Italie se réveille, et Badoglio, le chef de l'armée italienne, eh ben, va finir par se présenter, au bout d'une entreprise assez acrobatique, comme co-belligérant avec les Alliés. Et que vont faire en Corse les 80 000 Italiens qui sont là dans l'île depuis l'automne précédent?
Le 8 septembre soir, à Radio Londres, c'était à Eisenhower, vient d'annoncer que l'Italie a capitulé. Donc le 8 au soir, je participe à la rédaction d'un tract qui appelle la population à l'insurrection. Et puis en italien, aux troupes italiennes, « Dallo Stelvio alla Calabria » La révolution ne vivant pas. Voilà, c'est l'appel aux Italiens. Parce que si les Italiens ne viennent pas avec nous et qu'ils se dressent contre nous, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Bon, c'était pas facile pour nous parce que les Italiens venaient d'assassiner les nôtres.
Hein. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Que va-t-il se passer après ce 8 septembre 43? En Corse, la Corse qui attend sa libération. Nous sommes avec Sylvain Grégory, directeur du musée de Bastia et l'un des contributeurs de la grande somme chez Alain Piazzolla sur l'histoire de la Corse en deux volumes. Oui, alors, les Italiens, dites-nous ça, c'est important, ils vont jouer un rôle déterminant selon la position qu'ils vont tenir. Ils sont 80 000, ils sont armés et... Après les avoir combattus, avoir vu les organisations de justice italiennes condamner beaucoup de résistants, il faut aller vers eux.
Oui, il faut aller vers eux parce que c'est une force militaire importante, considérable même, qu'il faut au pire neutraliser, au mieux se rallier. Donc fort des relations entre occupants et occupés qui se sont fait jour grâce à une langue et une culture commune, la résistance communiste va, pendant tout le mois d'août 1943, donc juste avant l'insurrection, essayer non seulement de démoraliser l'Italien, mais surtout de le rallier. Et on va assister à une diffusion de toute une propagande envers l'occupant.
Et oui, ils ont envie de rentrer chez eux et du coup ils vont collaborer à leur manière avec la résistance corse. Les Allemands débarquent par le sud avec des blindés qu'ils veulent faire passer en Italie. Il leur faut le passage libre par la plaine orientale jusqu'à la ville de Bastia que les troupes de la France libre débarquées d'Ajaccio vont peu à peu rejoindre. Ils vont direct Ajaccio-Bastia, les troupes de la France libre?
Quasiment direct, mais avec un petit temps mort, c'est-à-dire qu'à partir du 13 septembre, lorsque le bataillon de choc, qui est la première unité française, débarque à Ajaccio, elle stationne quelques jours dans la ville.
Pourquoi faire ?
Parce qu'on est dans le cadre aussi de la reprise en main et de la normalisation et du retour à l'état de droit. Donc il faut assurer le pouvoir gaulliste à travers le préfet Luizé pour que justement les communistes ne fassent pas une, entre guillemets, une révolution dans Ajaccio libéré.
Et sur la route de Bastia, la route des cols, s'élancent notamment les goumiers du deuxième groupe de tabors marocains. Mais oui, parce que beaucoup de musulmans devenus d'Afrique du Nord ont participé à la libération de la Corse, ce qu'a rappelé un voyage d'un précédent président de la République, François Hollande, en 2013. Ces reportages datent de ces années-là.
Ce vieux retraité-là, ça lui dit quoi, les Goumiers ?
L'ancien Goumier, non, je ne connais pas. Non, il y en a que je connais, mais ils sont morts. Hein. Ah. Il y a longtemps, ça. Non. Mais ça, il y a 20 mois, ça. Je crois, j'étais un né ou j'étais pas un né encore, je ne sais pas. Oui.
Mais...
D'accord. Il y a des Marocains qui sont des Français maintenant, ça veut dire qu'ils sont nés ici. Donc ils ne connaissent pas cette histoire.
Ex-champion de Corse d'athlétisme, Stitou a tout appris au hasard d'une course en 1994.
C'est le marathon de Saint-Florent-Bastien. Et en fait, le départ, il était juste en face de la cimetière. À un moment, je me rapproche et je vois les signes musulmans sur les cimetières. Je me suis posé la question. Je savais quelle histoire des Goumiers, mais je ne savais pas qu'il y avait une cimetière. À un moment donné, j'étais allé voir quelqu'un qui est de là-bas. Elle m'a expliqué que c'est des cimetières musulmans des Goumiers qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était pour la libération de la Corse.
Combien de Goumiers, combien de morts. Après, ces Marocains ne restent pas en Corse.
Alors, ils vont stationner quelques mois, puis ils vont être envoyés ensuite en Italie, au sein du corps expéditionnaire français, et surtout, vont participer au débarquement de Provence.
Alors, Bastia est libéré le
4 octobre.
Au petit matin.
À l'aube.
Ah, voilà que les Alliés bombardent après la libération, quelques heures après, et ça leur est encore profondément reproché, parce que beaucoup de destructions sur le Vieux-Port, le quartier de la gare, que sais-je, leur sont dues.
Alors en partie, parce que la ville avait déjà été bombardée par les Allemands lors des combats du 13 septembre, au cours desquels ils vont reprendre la cité, et elle avait subi plusieurs raids aériens, à la fois des Anglais et des Américains, durant quasiment toute la deuxième moitié du mois de septembre 1943. Donc on avait déjà d'importants dégâts qui sont faits. Bastia va recevoir la croix de guerre, un immeuble sur trois va être détruit, plus de 5000 appartements vont être également, ce qui va poser à l'aube de l'hiver 1943-1944 le problème du relogement de tous ses habitants.
Et le port ne sera utilisable qu'au milieu de l'année 1945. S'il y a une telle insistance sur ce souvenir de ce bombardement de trop, c'est quand même que dans l'imaginaire corse, on veut penser que les Corses se seraient suffi à eux-mêmes pour leur libération.
Oui, c'est un peu la rhétorique et la mémoire de cette résistance qui apparaît depuis 1943, aussi bien si on se place de la mémoire communiste ou de la mémoire gaulliste, c'est une insurrection qui a conduit directement à la libération et qui a provoqué l'intervention des troupes françaises.
La mémoire communiste, les communistes vont avoir 200 maires élus, ou presque 200, au premier scrutin municipal. Les premiers à avoir secoué la tutelle du bipartisme, des vieux clans, avant les autonomistes d'aujourd'hui, ce sont les communistes.
Comme toutes les nouvelles forces politiques qui rentrent dans l'arène insulaire, évidemment, leur première réaction, c'est de se poser en force alternative. Et en tant que force alternative, on est la force qui va justement détruire le système clanique et son organisation clientélaire. C'est ce qui a été fait et qui a conduit donc justement au succès électoral des communistes via le Front National à cette époque-là, mais qui va très vite s'étioler. Et en 1947, c'est déjà la dégringolade électorale et souvent même des militants communistes vont reprocher à leur propre parti de s'être lui-même mué en clan.
Et les gaullistes vont habilement jouer d'une alliance, notamment avec le clan jacobiste, le clan de gauche, ça va les aider à reprendre peu à peu du terrain avant le grand raz-de-marée du RPF qui a dû toucher aussi un peu la Corse. Le général de Gaulle, on peut terminer avec lui, est venu dès le 6 octobre 1943 dans Bastia, dévasté, et puis il a fait un parcours. Je pense que celui d'Emmanuel Macron sera plus calme dans tous les villages possibles et imaginables où on l'accueillait dans les pétarades de mitraillettes et de fusils. C'est peut-être ce qui explique la mauvaise qualité de cette archive.
Le chemin est encore si long, si dur, jusqu'au but que nous devons atteindre, qu'il nous faut aujourd'hui. Direct, lucidement, la leçon de la grande page d'histoire que vient d'écrire la Corse française.
Tirer les leçons, c'est ce qu'on a essayé de faire de la grande page d'histoire que vient d'écrire la Corse française. Merci à vous Sylvain Grégory, le tome 2 de l'histoire de la Corse chez Piazzolla dans peu de mois, puis une exposition courageuse sur la Corse et les migrations au musée de Bastia. Cet été, l'émission était préparée par Franck Olivard et Frédéric Martin, avec la réalisation Valérie Aestaray. La technique, c'était Loïc Frapsos. Très vite, il est 14h, cher Mathieu.
Oui, dans la tête au carré, les peuples amérindiens d'Amazonie, dans un instant.
Avec Stéphane Rostin.